Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le confinement dure et nos nerfs et notre espérance sont mises à rude épreuve. Difficile aujourd'hui, même en cette veille de Noël, de ne pas être inquiet face à cette crise sanitaire, économique et plus encore. Pour y faire face, on manque parfois de ressources et d'un souffle nouveau, trouver de l'air et de l'air frais. C'est ce que nous vous proposons avec cette série d'émissions sur l'encyclique Laudato Si, car plus qu'un texte officiel ou qu'une vision du monde, c'est d'une nouvelle mystique dont parle cet ouvrage du pape François. Parcours spirituel avec Laudato Si, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, cette veille de Noël. On continue cette habitude à l'occasion de cette année Laudato Si, faut-il le rappeler? Alors on s'y perd un peu parce que le pape François a décrété une année aussi Saint-Joseph, en plus de l'année Laudato Si, on espère que l'une va faire de l'ombre à l'autre. Et nous sommes avec vous, Bénédicte Lamoureux, vous êtes religieuse Xavière, directrice des Coteaux Païs, centre jésuite dans le sud-ouest, bonjour.
Bonjour.
Et Jérôme Guay, rapprochez-vous bien du micro. Jérôme Guay, vous êtes religieux jésuite et vous êtes donc président du CERAS, Centre de Recherche et d'Action Sociale, et animateur donc de la transition écologique dans la Compagnie de Jésus, co-auteur d'un ouvrage qu'on parcourt cette année, Parcours spirituel pour une conversion écologique, paru aux éditions Vie Chrétienne. Bonjour.
Bonjour.
Nous rejoindra un petit peu plus tard le père Patrice Mabila, qui est prêtre du diocèse de Toulouse et qui se trouve dans un lieu un petit peu perdu, dans le Comminges, à Saint-Bernard, au sanctuaire Saint-Bernard. Il nous fera part de son témoignage. C'est notre témoin Laudato Si du jour, un homme qui vit un peu immergé dans la nature. Comme à chaque fois, ce n'est pas donc une lecture de l'encyclique Laudato Si. On a déjà fait cet exercice ensemble avec les auditeurs il y a 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la lire et la relire, cette encyclique très riche. Mais donc, on parcourt votre ouvrage. Parcours spirituel pour une conversion écologique, c'est donc une longue retraite. On va quand même se mettre 2-3 éléments d'actualité en tête. Je lisais dans la presse récemment, c'était le journal Le Monde, Barbara Pompili, je m'adresse à vous, Jérôme Guay, ministre de la Transition écologique et responsable du parti En Commun, signe une tribune avec 41 autres signataires à l'adresse, si j'ai bien compris, du président de la République et du gouvernement pour dire qu'il faut accélérer sur la question écologique. Vous l'avez peut-être vu passer, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ben oui, bien sûr, il faut mettre le turbo là. On est devant une fenêtre de tir assez extraordinaire qui s'ouvre. Je pense que le résultat de l'élection du président américain, du futur président, nous ouvre un espoir et où il peut y avoir une conjonction de nombreux pays vers une transition écologique musclée, forte. Et donc, il faut y aller le plus possible.
Vous vous inquiétez qu'en France, donc il y ait cette polémique autour de la reprise ou pas par le président de la République et le gouvernement des conclusions de la fameuse initiative citoyenne?
Oui,
convention citoyenne, pardon.
Oui, bien sûr, parce que l'enjeu derrière, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu démocratique, c'est-à-dire cette initiative qui veut rapprocher les citoyens des orientations politiques du pays. Mais il faut qu'elle réussisse, il faut vraiment qu'elle aboutisse et que tout le monde ait le sentiment que c'est vraiment possible de faire cet exercice-là. Donc, bien sûr, il y a un enjeu très fort que les préconisations par ce groupe de 150 citoyens aboutissent vraiment. Et puis le deuxième enjeu, bien sûr, il est dans le fond, c'est-à-dire sur l'écologie aujourd'hui, c'est-à-dire sur cette transition écologique qu'il nous faut mener tambour battant de manière très forte aujourd'hui.
Alors Barbara Pompili, hein, je cite juste un passage de cet appel. En 2015, une puissante coalition, c'est donc à l'anniversaire, à l'occasion des 5 ans de la COP21, une puissante coalition mondiale pour l'environnement scellée l'accord de Paris sur le climat avec un objectif à hauteur des enjeux, limiter d'ici la fin du siècle l'élévation des températures mondiales à moins de 2 degrés et poursuivre l'action pour limiter cette élévation à 1,5. 5 ans après, force est de constater que le conte n'y est pas. Alors on va se plonger donc dans le deuxième chapitre, se recevoir de Dieu avec toutes les créatures. Ça peut paraître un peu, on va dire, un peu décalé avec, avec l'actualité. Je voudrais revenir brièvement sur le propos introductif de votre livre, parce que vous rappelez que l'ambition du pape François est profonde, que pour lui l'encyclique Laudato Si vise rien moins qu'à renouveler l'humanité. J'ai revu ça. Qu'est-ce qu'il faut... C'est pas un peu exagéré ?
Non, parce que l'enjeu de la conversion à laquelle on est appelé, l'enjeu de la transition écologique à laquelle on est appelé, est énorme. Il nous faut puiser au plus profond de nous-mêmes l'énergie, la ressource pour arriver à avancer dans cette transition. Sinon, on risque d'être simplement sur le haut de la vague, ballotté, et on aura du mal à tenir le cap et à aller vers une révolution profonde que demande cette transition écologique dans nos modes de vie, dans nos modes de production, nos modes d'organisation de notre société.
Alors, il y a bien des chantres de la transition écologique. Entre autres, je pense à Cyril Dion, donc cofondateur des Colibris, qui a contribué aussi à faire ce documentaire Demain, dont on a pas mal parlé, qui a été encore récemment, à l'occasion de ce dernier confinement, qui a été primé par le Festival de Cannes. Il dit souvent, en fait, on manque d'une vision. Donc quand le pape François, ou quand vous dites, en fait, il faut des ressorts puissants, il faut imaginer un autre monde, ça ressemblerait à quoi, ce monde, si vous deviez un petit peu le dessiner ?
C'est un monde où on est très profondément reconnecté à la nature, et où on reçoit la nature, alors pour nous chrétiens, on dira plutôt la création, parce qu'on la reçoit de Dieu comme étant le fruit de son amour, que nous soyons profondément reconnectés avec la création, avec les éléments de la nature, de façon à ce qu'il y ait une sorte de fraternité au fond de nous qui se développe avec l'ensemble de la création et qui fait que du coup on ne pourra plus continuer comme avant.
Donc avec la création, et ça a une incidence sur la vie des hommes aussi, c'est ce qu'on va voir, mais...
Ah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai ce sentiment de fraternité avec les éléments de la nature, je ne peux plus me comporter de la manière dont je me comporte aujourd'hui, où je me suis comporté dans des modes de vie qui mènent à la destruction de la nature.
Alors, se recevoir de Dieu avec toutes les créatures, vous commencez comme ça. L'homme biblique ou l'homme du XIIIe siècle était dans l'évidence d'une présence divine. Il s'agirait donc d'apprendre à regarder le monde autrement. Là, c'est saint François d'Assise particulièrement à l'occasion de ce chapitre. Et donc, c'est l'équivalent donc d'un deuxième jour de retraite dite ignatienne, enfin, selon la spiritualité qui vous est propre. Regarder le monde autrement. On a parfois, j'ai en tête aussi, on dit que dans les sculptures des cathédrales, c'est des hommes qui sont souvent, qui ne prient pas en fermant les yeux et en étant à l'intérieur d'eux-mêmes, mais qui regardent justement à l'extérieur. Ça ressemble à quoi, en fait, cet homme du XIIIe siècle auquel il faudrait qu'on ressemble un peu plus ?
Je dirais une capacité d'émerveillement devant la nature, devant bien sûr aussi l'humanité, avec cette évidence que tout cela vient de Dieu et que nous recevons, nous nous émerveillons de toute la beauté du monde et nous l'accueillons comme étant le fruit d'un amour. Voilà. Alors évidemment, aujourd'hui, avec l'avènement de la science, c'est beaucoup plus difficile de concevoir Dieu créateur et que Dieu est au fond derrière tout ça. Mais c'est ce à quoi nous sommes appelés à croire d'une manière renouvelée par rapport à l'homme du XIIIe siècle. Mais c'est bien cela, c'est-à-dire de regarder l'ensemble du monde qui est autour de nous comme étant le fruit d'un amour et celui de Dieu.
Alors vous faites quelques rappels scientifiques. Vous dites « nous sommes cousins avec des ancêtres et de l'ADN commun ». Donc le dernier ancêtre de l'homme et des humains et des chimpanzés serait de 9 millions d'années. Et on aurait tous un ancêtre universel à toute forme de vie qui, elle, daterait de 3,5 milliards d'années. Qui sont ces deux ancêtres ? Commençons par le plus ancien, peut-être.
Alors là, je ne suis pas scientifique.
Alors je vais vous aider. C'était pourtant dans votre chapitre. Hein.
Oui.
Ancêtre commun universel, il aurait vécu il y a 3,5 milliards d'années et nous partageons, donc ça serait j'imagine une molécule, hein, nous partageons 35% de notre ADN, dites-vous, avec les arbres, 60% avec les insectes, 75% avec les reptiles, 90% avec les mammifères et donc avec les chimpanzés, nous aurions cet ancêtre commun.
Oui, alors, si vous voulez, ce qui est très intéressant dans toute cette affaire-là, c'est de prendre conscience que nous sommes très proches de ces êtres-là, de ces animaux-là, puisqu'il y a...
Et du monde végétal, à vous lire. Hein,
voilà, et du monde végétal, parce qu'on partage... D'abord, on partage les molécules, l'oxygène, le carbone, enfin, tous les éléments dont sont faits notre corps sont dans la nature. Et on partage l'ADN, ce qui est assez extraordinaire, quand même. On partage un très gros pourcentage d'ADN avec ces êtres-là. Donc, d'une certaine manière, par la biologie, par l'évolution, nous sommes cousins. Nous avons des origines communes. Donc déjà, on peut parler de fraternité avec les éléments de la nature, ne serait-ce que par l'évolution.
Alors quid de... Parce que ce qu'on entend derrière, c'est qu'il y aurait un dieu créateur derrière les beaux paysages qu'on peut contempler dans notre sud-ouest, et entre autres dans les Pyrénées. Tous les auditeurs ne sont pas des chrétiens convaincus, tous les lecteurs de l'encyclique Laudato aussi non plus. Quid de, on va dire, de la compatibilité, par exemple, du récit de la Genèse avec la théorie de l'évolution? Vous en parlez là aussi un peu brièvement. Où est-ce qu'on en est du côté de l'Église sur ce sujet?
Là, très clairement, le récit de la Genèse est à prendre comme un poème qui nous dit quelque chose de l'intention créatrice de Dieu dans le monde et du rapport de Dieu à l'homme. Voilà. Et avec des très belles images. Mais dans l'Église, nous ne prenons pas à la lettre ces éléments-là, bien sûr, nous reconnaissons l'évolution comme étant...
Que dit l'Église exactement sur la théorie de l'évolution?
Je crois que c'est...
Allez, je vous aide ce matin, ouais. Je suis sympa. Hein. L'évolution est plus qu'une hypothèse, voilà, c'est ça, disait Jean-Paul II.
Voilà, donc les papes ont reconnu ça, enfin vraiment, donc c'est assez clairement établi.
Voilà, et puis le pape François aussi, hein, qui disait la même chose. « Quand nous lisons le récit de la création, nous risquons de prendre Dieu pour un magicien brandissant sa baguette magique » et qui rappelait, c'était en 2014, que nous pensons que la théorie de l'évolution n'est pas contradictoire avec la notion de création. Alors il y a un autre point dans ce jour, c'est donc plus que de se recevoir comme une créature parmi les autres, si j'ai bien compris, il faudrait en fait trouver à nouer une relation fraternelle avec le monde végétal ou animal. Alors Jérôme Gay, c'est-à-dire ?
Eh bien, comme je disais déjà, nous sommes proches par l'origine, par l'évolution, mais de plus, puisque nous croyons en Dieu créateur, finalement, nous avons même père, puisque Dieu est créateur de l'ensemble des êtres de la création. Donc, nous avons même père, nous avons même origine, nous avons cette même origine, cette même intention d'amour qui est derrière toute chose. Donc, en cela, nous sommes, il y a une très très grande fraternité à laquelle nous sommes appelés en découvrant cette même origine.
Voilà. C'est quelque chose dont parle le pape François dans son encyclique Laudato si, ou là c'est l'interprétation que
oui,
vous en faites?
Non, c'est quelque chose dont il parle évidemment, puisqu'il se réfère très fortement à la figure de François d'Assise, et c'est l'expérience très profonde de François d'Assise. Dans le Cantique des créatures, quand François d'Assise parle de sœur eau, parle de sœur notre mère la terre, frère soleil, pour lui, c'est pas juste une petite appellation comme ça, c'est une expérience très profonde, vraiment de fraternité avec l'ensemble des êtres créés et reliés à sa foi en Dieu Père créateur.
Voilà. Alors, il y aurait aussi, donc à vous lire dans cet ouvrage, et ça sera ma dernière question avant de faire une première pause, et puis après, Bénédicte Lamoureux nous prendra par la main pour essayer d'intérioriser ça, puisque c'est aussi ce que vous proposez pendant ces temps de retraite. Il y aurait derrière tout ça comme une poétique de la réconciliation, ai-je lu. C'est-à-dire, si je vous comprends bien, en fait, il faudrait aussi qu'on se réconcilie donc avec le monde créé, avec la nature, avec les animaux, pour arriver après à se réconcilier entre nous?
Oui, cette expérience très profonde de fraternité avec les éléments de la nature, eh bien, j'en ai vraiment moi fait l'expérience après une retraite dans ce sens-là. Eh bien, tout d'un coup, je me retrouve vraiment dans le désir de fraternité avec les autres hommes. Et c'est l'expérience de François d'Assise aussi, très profondément. Nous savons François d'Assise proche de la nature, et nous savons aussi François d'Assise proche des lépreux, des gens qui étaient marginaux de son époque, et avec une très grande fraternité. Donc c'est une expérience qui se renvoie l'une à l'autre et qui est fondamentale aujourd'hui.
Je citerai Éloi Leclerc, vous le faites aussi dans votre ouvrage, qui est donc un autre franciscain, assez connu aussi, qui a écrit des beaux ouvrages, entre autres sur François d'Assise. Je le cite et vous le citez. « L'homme moderne doit comprendre que dans son action sur la nature, il a affaire à lui-même inconsciemment, à la partie la plus secrète de lui-même, la plus déterminante aussi. Il ne peut y avoir pour lui de réconciliation vraie et totale avec soi et avec ses semblables, sans une fraternisation, je vais y arriver, avec la nature elle-même. » On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer ce parcours spirituel pour une conversion écologique à partir de cet ouvrage paru aux éditions Vie Chrétienne. Et puis on va faire plaisir à Bénédicte. La première pause, c'est « Toutes les œuvres du Seigneur chantées par Thésée ».
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Parcours spirituel avec Laudato Si, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, deuxième émission d'une de nos séries annuelles, celle-là c'est le mercredi, en général le dernier mercredi de chaque mois à peu près, et autour de la table, Bénédicte Lamoureux, religieuse, Xavier, directrice des Côtes-aux-Païs, des centres jésuites dans le sud-ouest, Jérôme Gay, religieux jésuite et entre autres animateur de la transition écologique pour la Compagnie de Jésus et co-auteur d'un ouvrage que l'on parcourt ensemble, et Patrice Mabila, qui est prêtre du diocèse de Toulouse et responsable du sanctuaire Saint-Bernard, Notre-Dame de Saint-Bernard, dans le Comminges. On vous entendra plus tard pour donner votre témoignage. Bénédicte Lamoureux, donc c'est un ouvrage un peu particulier puisqu'il s'agit d'une retraite et que nous, on l'a découpé pour proposer une retraite spirituelle aux auditeurs ou leur donner envie de suivre ces retraites. Alors, c'est pas forcément facile à l'antenne. Pourquoi faut-il tout simplement, déjà pour commencer, prendre le temps d'une retraite pour intérioriser ce que dit l'encyclique ? On se dirait de prime abord qu'une encyclique, il faut la lire une fois et après la ranger dans son étagère. Est-ce bien nécessaire, Bénédicte Lamoureux ?
Ben, je crois que chacun voit comment il va digérer cette encyclique. Mais pour un chrétien, il peut être intéressant de prendre un temps de silence, de prière pour recevoir cette encyclique plus profondément, mais surtout peut-être se reconnecter à ce qu'est la nature dans un premier temps. Et c'est ce que propose le deuxième exercice du deuxième chapitre, justement, qu'on parcourt aujourd'hui, c'est-à-dire prendre le temps d'être un parmi d'autres choses et d'autres éléments, d'autres personnes aussi, mais pourquoi pas aussi un parmi d'autres éléments de la nature.
Alors, on va y venir, j'aimerais juste qu'on fasse un tout petit peu de pédagogie sur les retraites, parce que les retraites, tout le monde n'en est pas familier, et parfois on se demande un petit peu ce qu'on y fait. Dans une retraite comme celle-là, dans votre propos introductif, vous dites la chose suivante, à l'occasion de chaque journée, partir du principe que je ne suis pas maître de ce qui me sera donné de vivre, de découvrir ou d'éprouver. Comment ça se passe, en fait, une retraite comme ça, ignatienne ? Vous pouvez nous dire un peu les grandes règles, et puis il faut s'apprendre à être surpris.
Oui. D'abord, c'est en silence. Ensuite, c'est guidé par un accompagnateur. Souvent, c'est dans une maison religieuse, donc on est porté par un groupe, mais on peut parfois être seul avec quelqu'un qui vous suit. Et surtout, on découvre et on prie avec la parole de Dieu. Voilà. Et du coup, on est en relation avec le Seigneur de façon particulière et personnelle. Et l'accompagnateur est le témoin de ce chemin. La parole nous nourrit de l'intérieur et notre histoire se tisse grâce à la parole avec le Seigneur.
Donc à plusieurs et souvent pris par la main par un accompagnateur aussi.
Voilà, qui vous donne des pistes sur un texte biblique et vous allez prier une fois, deux fois, trois fois dans la journée, quatre fois. Et puis avec une rencontre personnalisée tous les jours pour voir comment le Seigneur parle.
Alors aujourd'hui, on vous avoue, donc vous êtes par ailleurs accompagnatrice spirituelle, et puis on a carrément la directrice pour nous accompagner des Cotopaïs. Pour cette deuxième journée, donc on apprend à se recevoir comme toutes les créatures. Qu'est-ce que vous proposeriez dans le cadre de cette retraite et que vous pouvez nous proposer à nous comme premier exercice pour essayer d'intérioriser ce que Jérôme Guy nous a partagé ?
Alors ben là, ce thème, c'est se recevoir de Dieu avec toutes les créatures. Donc le thème lui-même, il est clair. Et ce que nous proposons, c'est un exercice dans la nature. Alors là, à la veille de Noël, c'est peut-être compliqué. Effectivement, les retraites, on les fait davantage l'été d'habitude. Donc la façon dont c'est écrit dans le livre parle plus de la nature au printemps ou en été. Mais l'exercice est tout à fait possible aussi en plein hiver, avec la beauté de la nature à l'état brut, quand elle est aussi en hivernage, c'est le cas de le dire en ce moment. Peut-être vous aurez la chance d'avoir de la neige à Noël, qu'est-ce qui sait. En tout cas, c'est toujours beau à voir. Et alors, ce qui est important, c'est et Jérôme vient de le dire, se connecter avec cette nature. C'est-à-dire de laisser tomber un peu tout ce qui nous habite habituellement, de faire silence, d'écouter ce silence de la nature, de se reconnecter à soi-même par le biais de la nature. Parce que dans cette nature, il y a tout. Tous les sentiments qui nous habitent en tant qu'hommes habitent aussi la nature d'une certaine façon. On va les retrouver.
Par exemple ?
Si on est noué, on peut trouver un arbre noué. Si on est dans le deuil, on va trouver quelque part une pierre cassée ou un arbre calciné. Si on est heureux, on peut trouver le sautillement d'un petit oiseau qui passe ou la beauté du soleil sur un arbre ou sur des fleurs ou un beau coucher de soleil. On va recevoir cette nature aussi avec ce qui nous habite. Et parfois, la nature elle-même va nous éveiller à l'inverse, à reprendre un chemin de pèlerinage alors qu'on est coincé, bloqué. On va avoir de l'eau qui coule et puis on va s'apercevoir que notre route, elle peut continuer alors qu'on était verrouillé, crispé sur un domaine, sur un endroit, sur une difficulté. Et revoir de l'eau qui coule, revoir un oiseau qui vole, revoir voir un lapin qui surgit, va nous aider à nous sortir de nous-mêmes. Donc et la nature est pleine de ressources pour nous-mêmes.
Donc faire silence, regarder la nature tout simplement autour de nous. Faut arrêter de réfléchir aussi.
Arrêter de réfléchir, la recevoir avec son corps.
Oui.
Et son affectivité. Faire jouer ses yeux, écouter de toutes ses oreilles, sentir les odeurs et se laisser saisir, sentir le froid, l'humidité, mais aussi la chaleur, la douceur, le vent. Et tout son corps est mis en route. Et Ignace, là-dessus, était très fort. Parce qu'on imagine toujours Ignace comme un grand intellectuel, un militaire même, très raide. Or, c'était un être extrêmement sensible.
Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites.
Oui, bien sûr. C'est un grand ami, donc je me mais permets oui. de l'appeler par son petit nom.
Et oui, il y a des prêtres aussi qui disent « nous » et ils pensent « eux et la Sainte Vierge », mais je précise juste quand même.
Voilà, alors s'il fait trop froid dans cette période de Noël, je recommande de faire jouer sa mémoire, parce qu'on a tous, pour cet exercice, une mémoire des événements de la nature que nous avons vécu.
C'est-à-dire pas les souvenirs familiaux ou amicaux, mais des moments avec la création.
Où la nature nous a touchés profondément. Par exemple, d'avoir gravi un sommet de montagne, d'en avoir bavé dans la montée et de voir un paysage absolument magnifique en haut, devant un désert, si on a pu avoir la chance de regarder un désert. Mais tout simplement, parfois, un beau labour, un blé qui pousse, des choses toutes simples. Et donc, utiliser aussi la mémoire d'impressions reçues, vécues, voilà, et de voir l'émerveillement devant une rose, la rosée sur telle ou telle plante, sur tel ou tel fruit.
Mais alors, Bénédicte Lamoureux, dans notre première émission, c'était s'émerveiller de la nature. Là, c'est se recevoir comme toutes les créatures. Ce qu'on entend derrière le propos de Jérôme Gay, c'est qu'il y aurait donc une forme de fraternité, y compris donc avec le monde végétal et animal. On entrevoit ce que vous nous proposez. C'est même ces espèces de Madeleine de Proust, un peu, on va dire... quant au rapport à la création, mais de là à nouer une relation fraternelle, alors on imagine qu'il faut plus d'une journée de retraite, mais comment vous pouvez nous aider à aller un petit peu plus loin ?
Avec chacun des éléments.
Parce qu'on peut observer les écureuils, mais de là se sentir frère de l'écureuil, il faut peut-être faire 5 fois 30 jours de retraite ignatienne, non ? C'est...
Sans doute pas. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin du tout de faire les 30 jours pour se sentir frère et sœur des animaux. C'est simplement faire cet exercice de dire je ne suis que ce que je suis, mais ce qui ne veut pas dire que je ne suis rien. Mais ces animaux qui sont là autour de moi sont des vivants comme moi. Et donc, par exemple, par le biais de la respiration.
C'est-à-dire ?
Prendre le temps d'inspirer, d'expirer, d'habiter ce souffle qui est là et qui est là pour les animaux, pour les végétaux, comme pour moi.
Alors, vous vouliez aussi nous parler du Cantique des créatures. C'est donc un texte très connu de saint François d'Assise. On peut en citer quelques passages. Je ne prendrai pas le tout début. Loué sois-tu, Seigneur, dans toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil. Alors, ce genre de cantique, il faudrait presque l'entendre chanter avec de la mandoline derrière. Par qui tu nous donnes le jour, la lumière, il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi le Très-Haut, il nous offre le symbole. Et puis François continue, loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Ce cantique est connu, mais là, vous voulez nous aider à aller un peu plus loin, jusqu'à appeler donc le soleil frère ou la sœur lune.
Le frère vent, la sœur eau, le frère feu, la sœur, notre sœur, notre mère même, la terre. Sœur et mère, voilà, il utilise les deux, François. Oui, si nous sommes un parmi d'autres dans cette création, c'est aussi faire un chemin d'humilité et de cesser, comme on nous l'a appris, de penser que nous sommes supérieurs à tous ces éléments de la nature. Parce qu'au fond, si on regarde l'eau, elle est précieuse à tous les niveaux, mais elle peut être aussi impétueuse et est très ravageuse. Et nous aussi, nous pouvons être très positifs, mais aussi très négatifs, par un regard destructeur, par une parole destructrice. L'eau a aussi, par exemple, ces deux aspects. Le feu également a ces deux aspects. Le vent également a ces deux aspects. Et nous sommes frères et sœurs de ce côté-là.
Là, l'exercice, c'est quoi, en fait ? C'est qu'on se promène dans la nature et puis on prend le cantique des créatures et on le lit, c'est ça ?
On peut l'aller... Moi, je conseille plutôt d'y aller les mains vides, de l'avoir lu avant éventuellement, d'y aller les mains vides et de recevoir cette nature qui est là aujourd'hui autour de moi. Et de la recevoir dans mon corps, dans mes yeux, dans mes sens. Voilà. Et de voir qu'est-ce qu'elle m'apprend. De me retirer et de la recevoir.
Jérôme Gué.
Moi, ce que je fais souvent, c'est je marche dans la nature et je vais continuer le cantique d'Assise.
Oui,
avec les éléments que je vois, je vais appeler frère écureuil, s'il y a un écureuil qui passe, et voire même lui parler, trouver des belles petites phrases que j'ai envie de dire en voyant cet écureuil et qui dit quelque chose de mon état intérieur, de ma manière de voir la vie, comme le fait François dans ce cantique. Donc, je pense qu'on peut composer notre propre cantique le moment même qu'on est dans la nature.
Il faut un peu de... Comment dire il faut avoir marché, il faut avoir de la disponibilité pour pouvoir vivre cet événement, de recevoir la nature, toucher les arbres, sentir les fleurs, parce que c'est différent d'une marche, d'une balade normale. Voilà. C'est important d'avoir une disposition intérieure pour pouvoir poursuivre et se dire son propre cantique de la créature.
Et il faut du temps. On verra le père Patrice Mavila, c'est peut-être une des particularités de la vie que vous menez, qui vous permet justement d'avoir ce temps et peut-être de développer ce rapport à la création. Alors, je propose juste qu'on reste encore avec vous, Bénédicte Lamoureux. Cet exercice de présence, le cantique des créatures, qu'est-ce que vous proposeriez d'autre pour finir ? Éventuellement, quoi, il y a d'autres textes sur
Il y a d'autres textes, bien sûr. Vous pouvez prendre la Bible. Et dans la Bible, vous pourrez reprendre la Genèse et reprendre toute la création de la Genèse jour par jour. Et Dieu dit que la lumière soit, et Dieu dit, etc., que les eaux montent, et premier jour, deuxième jour, et à chaque fois, et Dieu vit que cela était bon. Et quand il y a la création de l'homme et de la femme, et Dieu vit que cela était très bon. Voilà. Et donc, prendre le temps, de le dessiner, de se l'approprier, de rendre grâce. Et en fait... La contemplation, parce que c'est ça, aller dans la nature et prier, c'est rendre grâce, contempler, c'est louer. Louer pour toute cette nature, et puis s'inscrire dedans, et se laisser guider par elle aussi. Parce que elle nous reconnecte à nous-mêmes, à Dieu, et du coup aux autres par voie de conséquence.
Quand on parle de la nature, de la création comme un lieu de réconciliation, là dans votre exercice, à quel moment on sent qu'on est réconcilié ? C'est quoi ? C'est quand on éprouve de la paix ? C'est
quand on est capable d'entendre et d'écouter, de vraiment recevoir cette nature de fait. Parce que combien de fois nous marchons dans la nature, ou même dans une ville, n'importe où, sans voir, sans entendre, dans nos pensées, dans notre agenda, dans nos questions, dans nos difficultés. Et nous ne voyons plus, nous n'entendons plus, nous n'écoutons plus. Or, la nature nous reconnecte, nous fait ressortir de nous-mêmes.
Jérôme Guise, dans ce chapitre, on en avait parlé quand on avait fait une émission, sur toute la retraite, et puis c'est ce qui nous avait donné envie de nous arrêter au long de cette année, après que le pape François ait déclaré cette année Laudato Si. Donc je crois que c'était fin mai dernier qu'il a déclaré ça, qui va couvrir pendant une année, ou presque. Dans cet exercice, il y a le moment où on laisse parler son affectivité. Alors on devient un peu plus franciscain, peut-être que jésuite. Je vous avais taquiné parce que vous laissiez entendre qu'on peut parfois aussi s'épancher, se laisser aller à exprimer son affection en fait pour la création. Alors vous dites jusqu'à embrasser les arbres ou les serrer comme font certains dans certaines villes. On voit parfois des gens même au Jardin des Plantes à Toulouse qui font ça. Quel est le sens en fait d'aller jusque là? Un petit grain de folie, c'est ça ou...
Oui, c'est de revenir avec un cœur d'enfant qui s'émerveille des choses et qui est capable de jouer, de prendre ces éléments de la nature comme un peu des êtres qu'il a en face de lui, et donc leur donner une valeur, leur donner une existence pour elles-mêmes, et non pas simplement un rapport de prédation où les choses sont pour mon usage uniquement. Voilà. Donc je le donne l'existence à mes yeux, à ces aides de la nature. Et il n'y a pas de gêne à faire ça. C'est-à-dire, comme vous disiez, maintenant il y a des séances de développement personnel où on apprend à embrasser les arbres, tout ça. Donc aujourd'hui, je dirais, on veut pas le faire parce qu'on se croit des grandes personnes, tout ça, mais on a un cœur d'enfant. On peut retrouver cet esprit de taquinerie, d'émerveillement et de finalement parler aux êtres de la nature. Moi, j'aime bien parler à un arbre. J'aime beaucoup.
Mais alors, juste ce qu'on pourrait vous rétorquer, c'est que la nature, quand on la regarde de manière prolongée, n'est pas toujours si tendre que ça. Ni entre elles, les animaux entre eux, ni avec l'homme. L'arbre ne vous rend pas forcément votre câlin, et puis quand la nuit tombe, en général, c'est saignant pour le monde animal.
Oui, bien sûr, je ne suis pas dans
comment
une sorte de naïveté.
Comment concilier les deux
si vous voulez, aujourd'hui, ce dont on a absolument besoin, c'est de sortir de cette posture... De prédation vis-à-vis de la nature. Voilà. Donc pour le moment, c'est pas le risque. Pour le moment, le risque, c'est qu'on reste dans cette posture-là et que du coup, on détruit tout. Donc c'est le pape dit de manière très très belle dans l'encyclique de tendre la main de manière amicale avec la nature. Voilà, de retrouver une relation qui est dans l'humilité. Et dans l'accueil de quelque chose qui nous est donné et qui demande le respect. Voilà. Mais bien sûr, la nature a aussi ses parts d'ombre et sa violence en elle-même entre les êtres de la nature. Et la prédation existe dans la nature aussi, bien sûr.
Allez, on va faire une deuxième pause, toujours pour faire plaisir entre autres à Bénédicte. C'est le psaume de la création, m'aviez demandé. C'est l'un de vos amis, vous pouvez l'introduire peut-être, ce psaume de la création?
Oui, Patrick Richard et sa femme Michel. Et Patrick a créé beaucoup de chants. Un compositeur chrétien engagé depuis de longues dates. Je l'ai connu quand nous étions à l'équipe nationale du MEJ il y a bien des années.
Mouvement eucharistique des jeunes.
Voilà. Et du coup, il a créé ce cantique de la création un jour, exactement comme François d'Assise, je crois, avoir su que François d'Assise avait été en colère. Patrick était très en colère ce jour-là et il a ouvert un livre, il est tombé sur le cantique des créatures. Avec sa guitare, il a écrit le Cantique des créatures. Et il y a quelque chose de très fort qu'il veut signifier dans ce texte.
Allez, on va l'écouter et puis après on retrouvera le père Patrice Mabila qui a été très discret jusque-là, donc prêtre du diocèse de Toulouse et donc à la vie un peu singulière puisque vous vivez donc à proximité de ce sanctuaire dans votre caravane avec très peu de moyens en compagnie des loirs et autres soi-disant nuisibles qui pour vous n'en sont pas, mais on découvrira ça tout de suite après la pause.
Devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Thank you. les animaux, de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en tout.
Présent. Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc avec pour thème, pour rappel, parcours spirituel de Laudato Si. C'est donc cette série d'émissions annuelles, pour ceux qui nous rejoindraient par hasard, que nous faisons en partenariat donc avec les Jésuites et les Cotopaïs. Avec nous donc Jérôme Gué, qui est co-auteur d'un ouvrage intitulé Parcours spirituel pour une conversion écologique, paru aux éditions Vie chrétienne Fidélité. Bénédicte Lamoureux, qui est directrice donc des Cotopaïs et centres jésuites dans le sud-ouest. Et Patrice Mabila, qui est donc prêtre du diocèse de Toulouse et responsable donc du sanctuaire Notre-Dame de Saint-Bernard. Alors, Patrice Mabila, vous avez été discret jusque-là. J'aurais dû dire frère Patrice Mabila. Je vais vous présenter un petit peu plus et puis après, vous allez nous dire ce que vous avez à nous partager. Vous êtes donc responsable de ce sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame de Saint-Bernard dans le diocèse de Haute-Garonne. Vous êtes un homme engagé et original pour certains, attentif à la nature et ce de longue date, très marqué par l'encyclique Laudato Si et sa spiritualité écologique, m'avez-vous dit qu'elle dessine, et on va dire très engagé aussi auprès des plus pauvres, puisqu'entre autres choses, vous accompagnez les personnes du Quart Monde à Toulouse. On y reviendra peut-être sur votre présentation, mais ma première question, c'était de vous demander, quand vous avez lu le titre de ce chapitre que l'on a parcouru aujourd'hui, se recevoir de Dieu avec toutes les créatures, que vous êtes-vous dit? Je crois que pour vous, il y avait une autre formulation qui résonnait davantage.
Bonjour d'abord à tout le monde. En fait, le titre ne m'a pas parlé immédiatement, mais en lisant le chapitre, j'ai bien vu que ça correspondait tout à fait à des choses que je ressens, que je vis personnellement. Dieu crée par amour. Il aime toutes les créatures comme il nous aime. C'est en deux phrases ce que je résumerai de ce chapitre et ce qui me fait vivre.
Alors, vous avez et vous êtes là pour ça ce matin, une manière d'illustrer, en l'occurrence par exemple, cet amour donc que Dieu nous porte et qu'il porte aux autres créatures. Un exemple qui peut être surprenant, mais vous vouliez nous parler des nuisibles, comme on dit, qui règnent, non pas qui règnent, mais qui sont présents au sanctuaire Notre-Dame de Saint-Bernard. Racontez-nous cette histoire.
Alors d'abord, le sanctuaire, c'est très modeste, hein, c'est une chapelle au milieu de la nature. Moi, je vis dans un mobilhome à 30 ou 40 mètres de la chapelle et je suis avec la nature tout autour, environnante, notamment les chênes, mais de l'herbe aussi, puisque à l'origine, il y avait quelques pâturages. Et ben, dans cette nature qui est préservée, il n'y a que des prés autour, il n'y a pas de champs, là, le sol est bien trop rocailleux. Il y a plein de petits animaux de toutes sortes, que ce soit des oiseaux en nombre, mais aussi des taupes, des mulots, des écureuils, des loirs, et il y en a pas mal d'entre eux qui ont des aspects assez gênants. Par exemple, la récolte de noix, elle passe intégralement aux écureuils, ils les prennent avant qu'elles soient mûres. Alors, j'y n'y peux rien. Le noir, ça bouffe à peu près tout ce qui se trouve sur le passage, plastique, enfin ça ne mange pas, je suppose, mais ça le déchiquette pour faire leur nid. Alors voilà, il y a plein de petits animaux qu'on aurait appelés nuisibles à un certain moment, mais qui sont pleins de vie. Enfin, je m'émerveille des fois. Je me souviens de cette maman loire qui, une année, déplaçait deux fois par jour, je ne sais pas pourquoi, mais entre deux nids qu'elle s'était faite juste au pied du mobilhome et puis sous le toit, deux fois par jour, elle déplaçait un à un, là, la dizaine de ses petits, voilà, d'un nid à l'autre, selon la température peut-être, je ne sais pas. Alors, c'était absolument magnifique.
Ce que vous dites en plus, c'est que pour vous, ceux qu'on prend en général pour des nuisibles, vous acclimatez de leur présence et vous cohabitez avec eux, même plus que ça. Pour vous, c'est vraiment des frères et sœurs. Ça veut dire quoi quand vous dites ça, que ce sont des frères et sœurs?
Mais pour moi, ça évoque évidemment Saint-François d'Assise, et je peux reprendre son expression que j'aurais peut-être pas inventée moi-même, mais tous les éléments de la nature sont frères et sœurs. Le pape dit bien, nous ne sommes pas à l'extérieur de la nature, nous en faisons partie. Et maintenant, en faire partie, ça ne veut pas dire que nous sommes exactement comme eux. Frères et sœurs, c'est une proximité, mais ça signifie aussi une certaine distance. Donc il y a une grande proximité, mais on n'est pas quand même identifiable à l'autre. Je pense à un petit oiseau, les rouges-gorges, là il y en a quelques-uns, une grande partie de l'année, tout à côté de chez moi, tout à côté du mobilhome. Et en général, quand j'ai une petite activité extérieure, ils m'accompagnent, ils me suivent. Mais ils ne s'approchent jamais à moins de 3 mètres. Donc, eux aussi, ils ont besoin de cette présence qui m'importe vraiment beaucoup, tout en restant à une certaine distance. Voilà, alors, peut-être cette fraternité, c'est la juste présence, la juste distance aussi qu'il faut, que ça note pour moi.
Alors, autre point important pour vous, c'est donc l'humilité que demande en fait le fait de se recevoir donc de Dieu avec toutes les créatures, chemin qu'on a essayé de parcourir au long de cette émission. C'est évidemment le début d'un chemin où ça, c'est pour donner envie d'aller plus loin. C'est une humilité donc on va dire qui est à la base de cette démarche et qui en est le fruit. Vous est revenu un passage d'une lecture d'un ouvrage de spiritualité un peu connu de certains, peut-être moins de d'autres, Le courage d'avoir peur, donc d'un dominicain, du père Molinier. Quel est ce passage qui parle de l'humilité et pourquoi est-ce que vous l'avez choisi?
Oui, il y a un chapitre où, plus précisément une variation, comme l'auteur appelle ses chapitres, sur l'orgueil et l'humilité. Ça m'a vraiment beaucoup éclairé et ça me permet de comprendre l'humilité d'une manière tout à fait différente. Il ne s'agit pas de se sentir inférieur. D'ailleurs, la Genèse, par exemple, nous place l'homme au sommet de la création. Et d'une certaine manière, on peut le constater. Bon, c'est un regard, c'est un choix que l'on a de se considérer ou pas au sommet de la création. Mais quand l'homme peut domestiquer, coloniser un certain nombre de plantes, d'animaux pour son service, les plantes ou les animaux ne domestiquent pas l'homme en retour. Donc il y a une certaine asymétrie. Et bon, j'en pense donc que l'homme est placé par Dieu au sommet de la création, comme c'est présenté dans la Bible. Ceci dit, ça ne veut pas dire que tout nous appartient, que tout est à notre service sans que l'on puisse respecter chaque chose, chaque être vivant. L'humilité, c'est se décentrer de soi. Et donc, recevoir toutes ces créatures comme des frères et sœurs, déjà, ça veut dire que l'on fait référence à Dieu, créateur de toutes choses.
Alors, vous aviez un exemple très simple qui dit ce retour au réel auquel nous invite le pape François à travers l'encyclique Laudato Si. Le réel, c'est donc aussi l'humilité, en l'occurrence pour vous, donc...
L'humilité, homme, hein, ça a la même étymologie, humus, ça vient de terre, comme en latin d'ailleurs, comme en hébreu, Adam, Adama. Et ici j'ai l'occasion non seulement d'équilibrer ma vie avec un peu de travail manuel, c'est pas l'essentiel de mon travail évidemment, mais surtout pendant le confinement, j'ai eu du temps. Et bien quelque chose de très simple, c'est de fabriquer de la terre. dans un sol aussi rocailleux que nous avons ici, c'est vraiment du rocher, quoi. Alors petit à petit, il y a de la matière organique qui se place au-dessus du rocher, avec les feuilles mortes par exemple, naturellement, ça forme un peu de terre, mais elle n'est vraiment pas épaisse. Alors quand on veut faire un parterre de fleurs, ce que j'essaye de faire à quelques mètres de la Vierge derrière la chapelle, eh bien il faut commencer par enlever les cailloux, enlever les racines de plantes pour avoir à un moment donné un peu de terre meuble dans lequel on puisse planter des plantes qui soient moins jolies et pas forcément aussi résistantes que celles qui étaient naturellement. Voilà, alors enlever ces cailloux, en faire des murets, être assis dans la terre, se salir les mains, enfin se salir entre guillemets, évidemment. Mais voilà, il y a quelque chose de très concret, il y a le rapport à la terre elle-même, et j'ai la joie. Donc une fois qu'on a creusé, qu'on a enlevé tous les blocs de rochers, etc., parfois de plusieurs dizaines de kilos, et puis plein de petits cailloux, ben d'entasser des feuilles mortes, d'entasser l'herbe de tente, d'entasser du bois fragmenté par le broyeur, et ça finit par former une terre. Enfin, il y a un grand plaisir de s'associer au travail de création ainsi.
C'est-à-dire donc, pour finir, enfin pour comment dire, vous aider à préciser la fine pointe de votre propos, c'est que ça fait grandir en humilité, tout simplement.
Oui, bah ça donne du bonheur, de la joie. C'est pas l'essentiel de nos activités, loin de là, mais ce petit peu que je peux faire là au fil des années, on voit les choses avancer, progresser, s'embellir, ça donne du bonheur, ça donne c'est aussi un lien avec un certain nombre de personnes qui sont très touchées de ce travail qui est fait et qui ne m'aborderait pas nécessairement pour à propos d'une célébration liturgique, il y en a qui rentrent pas à la chapelle d'ailleurs, mais qui voyant ce travail, surtout quand ils reviennent et qui voient les choses progresser, viennent me dire combien ils sont touchés, que c'est important pour eux de mettre des plantes, que ce soit des légumes dans le jardin ou justement d'embellir le sanctuaire de cette manière. Ils sont très touchés et c'est parfois le démarrage d'un dialogue plus approfondi sur le plan spirituel.
Alors il y a une dernière chose que je voulais voir avec vous, qu'on a vu donc au long de l'émission, c'est que donc de se recevoir comme une créature, et une créature certes peut-être particulière, mais on va dire en partie aussi comme toutes les autres créatures, et donc d'être attentif à toutes les réalités de la création, du monde végétal, du monde animal, etc., ça produirait comme fruit, à entendre nos invités de ce matin, aussi un plus grand amour pour les autres. Alors les autres, en l'occurrence, c'est les autres hommes, hein, hommes étant entendu comme un mot générique. Est-ce que vous, c'est ce que vous constatez? Alors c'est difficile parfois de parler de sa propre charité, hein, mais est-ce que ce compagnonnage avec ce rouge-gorge, cette proximité avec les nuisibles, entre autres, que vous décriviez, ce travail de la terre, vous sentez qu'en fait ça vous aide à aimer votre prochain, comme on dit?
En tout cas, ce qui est sûr, bon, ça c'est difficile à dire, je l'espère, mais que je suis en croissance dans l'amour du prochain, toujours, on n'a jamais terminé ce chemin, bien sûr, mais ça me donne de toute évidence un équilibre entre le travail intellectuel du prêtre, par exemple, pour élaborer ses homélies, hein, c'est un élément important de notre vie et de notre relation aux autres. Le travail d'accueil, puisque c'est beaucoup d'accueil que je fais ici, le travail donc pastoral d'une manière générale, le rapport avec la paroisse, etc., le travail sur ordinateur et le confinement a accentué encore cela, ça fait beaucoup. Le travail manuel, ce travail proche des plantes, des animaux autour de la chapelle, ça me donne un équilibre. J'ai l'équilibre du repos et de la prière, l'équilibre du travail intellectuel, du travail manuel, tous ces équilibres-là contribuent au final à une paix intérieure qui grandit. Ça, je le constate, en tout cas sur une longue période de 10 ans, 20 ans, 30 ans, je sais que je grandis en paix intérieure, même si je ne suis pas arrivé au bout, loin de là, en joie. Et bien sûr, cela me permet de rentrer en relation avec les autres de manière sûrement plus respectueuse, plus à l'écoute petit à petit.
Eh ben merci beaucoup Patrice Mabila, ou plutôt frère Patrice Mabila, pour reprendre l'expression de François d'Assise, qui fait de nous tous avec la création des frères. Un grand merci à vous pour ce témoignage ce matin. Je rappelle le titre du livre que l'on parcourt au long de cette longue série annuelle, à l'occasion de cette année Laudato Si, Parcours spirituel pour une conversion écologique, l'appel de Laudato Si, ça c'est le sous-titre, paru aux éditions Chrétiennes et Fidélité. Un grand merci à vous tous. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.